campagne pour la présidentielle donc, qui est lancée. Et je voudrais discuter des objectifs qui sont les nôtres et du combat que nous avons à mener. Avec la question du terrorisme, avec la question de Calais et des migrants, avec les manifestations des policiers, la campagne a pris un cours démagogique, sécuritaire, anti-immigré et xénophobe. Et cela sans même que Le Pen n'entre de plein pied dans cette campagne. Et derrière cette démagogie destinée à faire diversion, eh bien il se cache une politique férocement anti-ouvrière. On le voit très bien avec la primaire de la droite et le défilé de leurs candidats. Vous avez forcément tous entendu parler, soit Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire ou Kosciusko-Morizet, et vous avez vu comment ils rivalisent de bassesse envers le patronat. Quand l'un promet 21 milliards de cadeaux au grand patronat, l'autre en promet 34, le troisième 40. Et bien sûr, ils sont tous d'accord pour reculer encore l'âge de la retraite, pour mettre fin aux 35 heures, pour supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, pour diminuer les indemnités chômage. Et puis j'oublie les idées originales du genre privatiser Pôle emploi ou encore imposer des jobs à 5 euros de l'heure. Mais si les candidats de droite peuvent mettre en avant des politiques aussi anti-ouvrières, c'est que les socialistes au pouvoir leur ont préparé le terrain. Avec 40 milliards de cadeaux au patronat, avec le démantèlement du droit du travail, le travail du dimanche, la généralisation des accords de compétitivité. En fait, la droite ne fait que reprendre le travail là où le laissent Hollande, Valls et Macron. Ils se passent le relais. En 2012, Hollande a repris le relais de Sarkozy en prolongeant sa politique anti-ouvrière. Eh bien aujourd'hui, la droite se prépare à pousser le bouchon encore plus loin. Et Le Pen aspire exactement à la même chose. Bien sûr, Le Pen n'a pas eu l'occasion de le démontrer en accédant au pouvoir. Alors certains autour de nous disent qu'il faut peut-être l'essayer. Mais Le Pen, c'est du Hollande et du Sarkozy empire. Et c'est du faux neuf. Parce que le Front National n'a peut-être pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement. Mais il a un passé politique. Le Front National, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française avec une grosse couche de maquillage. Le Pen père fut élu député en 1956. À l'époque, il était parachutiste torsionnaire en Algérie. Alors aujourd'hui, il a été mis de côté, mais il reste bien au cœur du Front National exactement les mêmes idées, c'est-à-dire l'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves et aux travailleurs qui se battent. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés, contre les riches dont elle fait partie, eh bien on la retrouve de l'autre côté de la barricade. On la retrouve du côté de l'ordre et du gouvernement. Et on l'a vu lors des grèves et des manifestations du printemps contre la loi travail. Et souvenez-vous aussi comment Marion Maréchal Le Pen a traité les salariés d'Air France de voyous qu'il fallait mater avec l'armée. Alors, voter pour la droite, la gauche ou pour le Front National, quand on appartient au monde ouvrier, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Dans cette élection, il faut affirmer nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp qui est à l'opposé de celui de la bourgeoisie et de tous ses serviteurs politiques. C'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections et cela se passe au premier tour. Parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui sortira vainqueur du second tour. On le sait d'avance. Les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Et choisir parmi Juppé, Sarkozy, Hollande, Le Pen, c'est choisir parmi ses ennemis. Celui qui piétinera nos intérêts à partir de mai 2017, c'est accepter par avance d'être trompé et d'être sacrifié. Alors il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs, d'ouvriers, de chômeurs, de retraités, pour défendre nos propres intérêts matériels et politiques. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et s'il y a des salariés qui vont au boulot la peur au ventre, ce n'est pas à cause du danger terroriste. C'est de peur d'être licenciés. C'est parce que les cadences et la charge de travail ne cessent d'augmenter. C'est parce que la pression des chefs, des cadres, est de plus en plus insupportable. Ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir le droit à un emploi, à un salaire, à une retraite, à un logement digne. Nous avons été des centaines de milliers, du public, du privé, à se battre contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social en entreprise lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et l'immense majorité des travailleurs a été solidaire et s'est reconnue dans ce mouvement. Eh bien, il faut exprimer cette même voix, ces mêmes intérêts de classe dans les élections. Alors, dans les élections, nous appelons les travailleurs à dénoncer la politique patronale, à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous, de façon à combattre le chômage et pour augmenter les salaires. Crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits. La grande bourgeoisie à s'enrichir avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors, nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous appelons les travailleurs à affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. Allez entendre tous, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays, c'est Calais, les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme. Leur campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion. Et puis, c'est de la démagogie. Parce qu'ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Hollande, ni Sarkozy, ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors, et c'est ce qui se fait déjà dans de très nombreux pays, mais ils n'empêcheront pas la vague migratoire. Parce qu'on a tous en tête les images de ce qui se passe à Alep et à Mossoul. On a en tête les images de ces villes bombardées en Irak, et on sait que tant que les hommes auront des jambes et l'énergie pour marcher, eh bien, ils essaieront de sauver leur peau et nous ferions tous exactement la même chose dans la même situation. L'extrême droite et la droite multiplient les pétitions contre l'accueil des réfugiés, tandis que le gouvernement se targue de défendre une politique plus humaine. Mais regardez comment les socialistes présentent les migrants. Non pas comme des victimes, mais comme des indésirables. Non pas comme des femmes et des hommes qui sont comme nous, mais comme des fardeaux. Et qu'un élan de solidarité s'exprime, et la propagande se met en marche pour marteler qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Tout est fait pour que nous taisions nos sentiments de fraternité. Tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et nos enfants. C'est de la démagogie aussi stupide qu'infecte. Le résultat de tout ça, c'est bien sûr de rendre la vie insupportable à ces milliers de femmes et d'hommes. Et puis, c'est surtout, c'est aussi, d'exciter les préjugés les plus abjects dans la population. C'est de pousser les plus racistes à passer aux actes. Mais attention, les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier ou ceux d'aujourd'hui. Nous en paierons tous les conséquences. Parce que les politiciens ne spéculent pas que sur les préjugés et sur les fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de notre système de soins. C'est une façon de matraquer l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tous. Et cela leur sert à justifier la politique anti-ouvrière en nous enfonçant dans le crâne qu'il est vain de revendiquer et qu'il faut accepter de se serrer la ceinture. C'est une façon de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres, ceux qui ont un travail à ceux qui sont au chômage, en intérim ou en CDD. C'est un instrument de division et de résignation. Avec cette campagne, ils veulent nous enfumer pour ne pas avoir de compte à rendre sur la misère qu'ils ont contribué à fabriquer et pour cacher les milliards accumulés dans les mains d'une minorité. Ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère, en pillant les pays pauvres partout sur la planète et en s'acoquinant avec les pires dictatures. Ils la fabriquent en Irak, en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici aussi, par ce chômage de masse et la précarité. Ils la fabriquent pour qu'une minorité capitaliste s'enrichisse encore et toujours. Alors, dans cette élection, eh bien, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère. Ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans cette société, celui des riches et celui des pauvres, celui des exploiteurs d'un côté et celui et le monde des exploités, qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Et affirmons pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Accueillons les migrants à bras ouverts parce qu'ils ont leur place dans le combat qui est le nôtre, c'est-à-dire combattre la minorité capitaliste qui domine le monde et qui nous pousse dans la barbarie. Du FN jusqu'à Hollande, ils se complaisent tous dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître ou qui diminuera la délinquance. Notre société est malade, elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15, 18, 20 ans rêvent de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une expression de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal, de projet collectif. C'est le culte de la réussite et de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires, alors que la misère s'étale partout, sous nos yeux. La société capitaliste marginalise et exclut. Elle nous met en concurrence permanente. Elle nous force à nous forger une carapace. Elle nous pousse au chacun pour soi, à l'isolement et à la haine de l'autre. C'est cette déshumanisation-là qui fait le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Alors il est facile de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression. Mais changer cette réalité-là, c'est tout autre chose. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut la changer. Et le changement, eh bien, ce sera le renversement de la bourgeoisie. Et il dépend du combat des travailleurs parce qu'ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Du côté de ce que l'on appelle la gauche de la gauche, on est bien loin de ces perspectives, y compris du côté du Parti communiste. Alors, il semblerait que la direction du PCF, enfin, ce matin en tout cas, elle avait décidé de soutenir Mélenchon. Cet après-midi, ils ne sont plus d'accord. Et donc, tout sera suspendu, paraît-il, au vote des militants. À voir. Dans tous les cas, les hésitations du PCF sont révélatrices de leur politique. Que cherche le PCF depuis déjà plusieurs mois? Eh bien, il cherche un bon candidat de gauche. Alors que les travailleurs, que beaucoup de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du PCF leur propose de retomber dans le même piège et dans les mêmes illusions. Jusqu'à aujourd'hui, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, voyait même ce bon candidat de gauche parmi les Montebourg et Hamon. Montebourg et Hamon, qui ont tous été les exécutants de la politique de Hollande, qui ont applaudi au pacte de responsabilité et à tous les cadeaux patronaux, et qui se sont félicités des accords de compétitivité imposés aux travailleurs à coup de chantage patronal. C'est dans ce genre de politiciens qu'il faudrait que les travailleurs replacent leur confiance. Le PCF est en réalité prêt à soutenir un candidat de gauche, sans même exiger quoi que ce soit de lui pour les travailleurs, parce que les perspectives politiques du PC ne sont pas fondées sur les intérêts et les luttes du monde ouvrier. Elles sont fonction des alliances électoralistes, censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PCF veut recréer des illusions dans la gauche gouvernementale et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et qui sont attachés à l'ordre bourgeois. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, le PCF a désarmé les travailleurs. Il les a écœurés et désorientés, au point que certains aujourd'hui regardent du côté de Le Pen. Alors, ce que j'ai à dire à ceux des militants et des sympathisants du PC, pour qui l'étiquette communiste a encore une signification, et à tous ceux qui n'ont pas renoncé à agir auprès des travailleurs, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, c'est retrouver confiance dans les travailleurs. Retrouver les idées qui ont été à la base de la fondation du Parti communiste. Le Parti communiste s'est créé au début des années 1920 pour rompre avec le Parti socialiste et sa politique d'union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, pour rompre avec la bourgeoisie et avec son État. Il s'est créé pour lever le drapeau de la Révolution et affirmer la nécessité que les travailleurs renversent la bourgeoisie et prennent le pouvoir. Est-ce que la société capitaliste a changé depuis ce temps-là? Ces idées et cette perspective ont-elles failli? Non. C'est l'électoralisme et le réformisme qui ont fait faillite et que nous payons aujourd'hui. Et on le paiera encore demain si on s'en remet à Mélenchon, comme certains à la direction du PCF semblent aujourd'hui le souhaiter. Mélenchon ne se présente même pas sur le terrain des intérêts des travailleurs. Mélenchon est d'ailleurs devenu le premier écologiste du pays. Et surtout, comme tous les autres, il défend une politique pour la France. Comme s'il pouvait y avoir une bonne politique à la fois pour le grand patronat et pour les exploités. Comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires. Comme s'il ne fallait pas choisir son camp. Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses. Contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne et ses retraités, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi souvent, mais pas contre le grand patronat, pas contre son pouvoir sur l'économie, pas contre le système d'exploitation qui est à la base de la condition ouvrière. Avec d'autres, y compris Le Pen ou Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En prétendant que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, eh bien, il détourne l'attention des travailleurs, des vrais responsables du chômage et des bas salaires. Les patrons bien français n'ont besoin d'aucun diktat de Bruxelles pour démolir les droits des travailleurs ou pour tirer les salaires vers le bas. La loi de travail, les licenciements d'Alstom, les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Et puis, opposer les pays les uns aux autres, c'est opposer les travailleurs les uns aux autres. Et c'est ainsi que Mélenchon en est arrivé à copier Le Pen en disant, je le cite, « Les travailleurs détachés venus de Pologne ou d'ailleurs volent le pain des Français ». Ce qu'il a d'ailleurs confirmé en disant que s'il était élu, plus aucun travailleur détaché n'entrerait en France. Eh bien nous disons qu'aucun travailleur n'a jamais volé son pain. Son pain, il le gagne à la sueur de son front et de ses muscles. Et les seuls vrais voleurs dans cette société, ce sont les exploiteurs. Et nous affirmons que le droit à un emploi est un droit pour tous, quelle que soit sa nationalité, sa religion, son origine. Au lendemain de l'élection, en mai 2017, qu'est-ce qui changera pour nous ? Certains iront au travail, hein, beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot ou qu'on est au chômage technique. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous. Parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé pour les Bolloré, pour les Bernard Arnault, pour les Michelin. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que, élection après élection, ils en ont fait l'expérience. Ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Et chaque jour, et chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les politiciens relayés par les médias nous jouent la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer des illusions électoralistes. Et c'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile, pour essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou encore pour voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pourrons faire dans cette élection, en tant que travailleurs, c'est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation ou encore d'un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société, cela ne modifiera pas le rapport de force entre le patronat, avec le patronat et le gouvernement, ça c'est vrai. Il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire. Qu'un mouvement social puissant, comme ceux qu'on en a connus en mai-juin 1936 et en 1968. Mais seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs et pour leurs perspectives, seuls ceux qui les expriment peuvent influencer l'opinion et l'état d'esprit des travailleurs. La résistance des travailleurs dépend de ce qu'ils ont dans la tête. Alors dire que l'on n'est pas d'accord, exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est la première chose à faire, c'est le premier acte de résistance. Et ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Chercher à voter pour le moins pire est également un leurre. La situation ne peut qu'empirer pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, personne ne mènera le combat à notre place. On peut nous enlever beaucoup de choses, notre boulot, notre salaire, notre logement, mais on ne peut pas nous enlever nos idées, notre conviction et notre dignité. Eh bien, il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, justement, eh bien, la moindre voix compte et peut porter. Alors, Il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi. Je serai donc en première ligne et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais ma campagne sera ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours où ils seront contraints un peu de m'inviter. Alors, il ne faut pas compter sur les médias. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Le mouvement ouvrier est né avant la télé et avec la grande presse contre lui. Et malgré cela, il s'est développé. Il s'est développé grâce aux militants qui faisaient circuler l'expérience ouvrière, les idées et les valeurs communistes. Eh bien, il faut faire la même chose. Pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit notre campagne à tous. Il faut que ce soit votre campagne. Il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que vous multipliez les discussions avec vos camarades de travail, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre voisinage. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, ouvriers, retraités des classes populaires. Rien n'est à négliger et toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité et de la force de conviction de chacun d'entre nous. Mais si nous sommes plusieurs milliers à entraîner 5, 10, 50 personnes à voter. Et si ces personnes elles-mêmes en entraînent une, deux, eh bien nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera aussi l'occasion de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes à cette campagne. Et cela nous donnera la possibilité de grandir, de renforcer les équipes militantes pour construire le parti qui est nécessaire au monde du travail. Aujourd'hui, du Front National au Parti Socialiste, la bourgeoisie a une variété de partis à sa disposition. Mais la classe ouvrière n'en a aucun qui exprime ses intérêts de classe. Alors oui, il faudrait un parti des travailleurs. Un parti qui dissipe les illusions, démasque les faux amis, cible les vrais ennemis et diffuse sur chaque question un point de vue communiste. Un tel parti ne se formera pas en un jour et pas en une élection, évidemment. Il faudra surtout des luttes massives et déterminées. Mais les élections peuvent contribuer à une petite échelle à ce que se regroupent ceux qui veulent combattre pour un autre monde. Alors il faut profiter de cette campagne au maximum pour avancer sur la voie d'un tel parti. L'Élysée, Matignon, ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'en avons jamais rêvé. Ni moi, ni aucun camarade de lutte ouvrière n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Je l'ai déjà dit, le pouvoir d'État, bien sûr nous voulons le conquérir, mais nous voulons le conquérir avec la classe ouvrière. Nous sommes communistes révolutionnaires. Et nous avons la conviction que les travailleurs peuvent établir leur propre pouvoir étatique et qu'ils peuvent s'en servir pour exproprier la bourgeoisie et créer un monde débarrassé de l'exploitation et capable, et une économie capable de répondre aux besoins de tous. Ce n'est évidemment pas ce qui est en jeu dans cette élection. Mais cela signifie que pour tous ceux qui voteront pour ma candidature, eh bien, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ceux qui voteront pour cette candidature, et puis après, pour nous, aux législatives, voteront pour faire entendre leur camp, le camp des travailleurs. Leur vote ne servira pas de tremplin à un arriviste. Il ne sera pas déformé, il sera sans ambiguïté. Personne ne pourra se tromper sur le sens de ce vote. Nombre de gens et de catégories sociales sont suffisamment en colère pour chercher à exprimer un mécontentement dans les élections. Et ils le feront des façons différentes. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur ma candidature aura un caractère ouvrier, ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les droits, les intérêts et les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que, quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière qui affirmera que la société peut se passer de la bourgeoisie, mais pas des travailleurs qui font tout tourner et qui produisent toutes les richesses dans cette société.